Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, on va parler de la fête de la science et notamment des jeunes étudiants de maths et de SVT. Ensuite, on vous parlera du prochain bruit de lune qui se déroule mercredi 18 octobre. Mais avant ça, le directeur du cirque Jules Verne, Yannick Javaudin, a un message à vous faire passer.
Bonjour, je vous invite tous à venir ce samedi 14 octobre dès 20h au cirque Jules Verne pour la caravane passe avec un set assez incroyable et exceptionnel puisqu'il y aura aussi des numéros de cirque invités avec en première partie un trio qui s'appelle Samana Satra. Et là, ensuite, pendant le set de la caravane passe, il y aura deux numéros de cirque, de la jonglerie et du spectacle aérien. Et après, ils finiront en fanfare dans le bar et devant le cirque. Le bar qui sera ouvert jusqu'à 23h pour vous accueillir en toute convivialité et passer un grand moment festif.
Voilà, vous êtes prévenus. Alors rendez-vous ce week-end au cirque Jules Verne. On s'écoute J'bivouac de la caravane passe.
Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, ya, ya, ya. J'passe la nuit sur la route en trek. J'étège mon duvet sur les fils barbelés. Je m'y mis sans 12D sans réveiller le douanier. Je plante pas ma tente dans l'attente de me faire remarquer. À même le sol sans paillasson, sans welcome. À la belle étoile sous sky sans 4 étoiles. Je bivouac sur terre, sur bitume, dans les parterres. Je passe en scred jusqu'à Babelwood. Tu bivouac. Tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, ya, ya, ya.
Je débarque dans ta case, salut à toi Navarro. Trinqué, tchat, j'ai le calumé amigo. Mi canapes, tout canapes, je m'avale sur le clic-clac. Mais avant que tu me captes, j'aurais tracé pour un autre squat.
Je quitte le bled sans breakfast. Je passe les murs en breakdance. Je me mure pas, je file à l'anglaise. Je passe en scred jusqu'à Babelweg. Tu bivouac. Tu bivouac. D'Irak au Danemark, je bivouac. En passant par les Carpates, je bivouac. Dans ton parc national, je bivouac. Sur les bancs de la fac, je bivouac. Dans les friches, dans les squats, je bivouac. En appart, en pirate, je bivouac. C'est nawak, mais je m'en tape, je bivouac. Je passe en scred jusqu'à Babelwood. Tu bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commate pas dans les squats. En attendant la matraque, je bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commate pas dans les squats. Quand la matraque me traque, je passe en scred jusqu'à Babelwood. Tu bivouac. Tu bivouac. Tu bivouac. Tu bivouac.
C'était J'bivouac de la caravane passe. Dans le cadre de la fête de la science, Rémi et Lisa sont allés à la rencontre des étudiants en maths et en SVT.
Bonjour, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ?
Ah, donc aujourd'hui on est là pour la fête de la science. Donc tu as différentes composantes de l'université qui viennent montrer un peu leur travail et surtout le faire découvrir au plus grand monde. Donc là, cette année, le thème, c'est la science et le sport. Et donc moi, je fais partie du LAMFA, qui est donc le laboratoire de maths de l'UFR des sciences, qui est accolée à l'université de Picardie Jules Verne. Et donc bah, nous on présente quelques aspects des maths qu'on peut retrouver de manière ludique dans la vie quotidienne et bah, surtout pour que les enfants puissent manipuler un maximum dans ce cadre-là.
Et qu'est-ce que tu attends de cette journée pour toi, pour les gens qui viennent voir un peu ce qui se passe ici ?
Déjà qu'ils y trouvent du plaisir avant tout et qu'ils puissent découvrir des choses, je parle surtout pour les enfants là, je trouve que si on peut essayer de leur donner envie de continuer dans les sciences ou de s'intéresser même juste, ce serait bien. Et bah, ça permet à peut-être des enfants qui n'ont pas l'habitude de pouvoir avoir accès à ce genre de choses, que ce soit via des livres, via l'école ou autre, bah, pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Donc si déjà on arrive à faire ça, c'est une très bonne chose.
Et t'as quel âge sans indiscrétion ? Tu fais ça depuis combien de temps ?
Alors moi j'ai 25 ans du coup, je suis doctorant au sein du labo. Donc j'avais déjà fait l'édition précédente qui était à la bibliothèque. Et j'avais fait plus en fait pendant la semaine où on accueille des groupes de scolaires et on montre les stands à toute une classe qui vient sur la journée, enfin sur l'après-midi plutôt pour voir tous les stands de la Fête de la Science.
Qu'est-ce qui t'intéresse toi là-dedans ? C'est ta passion ? Qu'est-ce que tu veux en faire de ta vie, de tout ça ?
Alors au niveau plus de la diffusion, je sais pas si c'est quelque chose, que j'apprécie vraiment. Je sais pas, après je suis vraiment assez novice dans le domaine, donc je sais pas trop quelles sont les suites. Mais ce qui m'intéresse moi c'est comme en plus je vais certainement être enseignant par la suite, bah, c'est d'essayer de transmettre quoi et surtout de faire connaître ce qu'on fait. Pour pas que ça reste quelque chose qui semble totalement étranger aux gens et le rendre le plus accessible possible. Donc, ouais, tu disais passion, je crois, mais bon...
Quel est ton rapport à la science et au sport, du coup, puisque c'est le thème de cette année ?
Alors moi, je suis très sportif déjà, donc je cours énormément. Et la science, moi, j'adore ça depuis que je suis petit. Tu sais, les trucs où, en fait, c'est... Ça permet de jouer un peu, là on commence tous avec par exemple une petite panoplie du chimiste, on s'amuse, c'est assez ludique et puis bon, après en grandissant on voit ce qui nous plaît. Bon moi c'était dans les maths, c'était le côté un peu cartésien de la science que j'aimais bien. Donc,
Et du coup qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là ? Qu'est-ce qui se passe sur votre table ?
Alors nous du coup pour les maths, bon alors c'est pas la science la plus facile à montrer au grand public sans être... trop dans les détails, donc on essaye surtout en fait de s'intéresser à des pavages, donc comment j'essaye de remplir un carré pour être simple avec des formes, peut-être des formes qui vont être différentes les unes des autres ou bien des formes qui vont être totalement identiques. Donc on a déjà des jeux en fait pour initier les enfants à comment essayer de remplir un carré avec différentes formes et pour des choses un peu plus complexes pour les plus grands, donc des pavages. Donc cette fois-ci on va vraiment avoir des formes qui sont identiques et là on ne le voit pas mais c'est donc des formes qui sont un peu complexes et il s'avère que en les imbriquant les unes avec les autres, on arrive en fait à tout recouvrir, ce qui paraît assez dingue. Et on a d'autres jeux après sur tout ce qui est la symétrie, donc des choses qu'on peut retrouver dans la nature. Vous regardez dans une flaque d'eau, vous voyez votre reflet, c'est symétrie, pareil avec un miroir. Et donc il y a ce jeu-là d'essayer de reproduire des formes grâce à l'effet du miroir. Et on a quelque chose aussi d'assez ludique pour montrer comment un film de savon se forme dans différents solides. Et voilà, donc c'est un peu ce qu'on présente sur notre stand aujourd'hui.
Des petites activités ludiques que tout le monde peut tester et tout le monde peut... Enfin, même si on ne s'intéresse pas particulièrement aux maths et à la science, tout le monde peut apprécier ce genre d'activité.
Ouais, totalement. C'est le but. De toute façon, c'est pas de montrer son expertise ou de d'étaler toute sa science. C'est juste que ce soit accessible au plus grand nombre. Et on voit au final, les jeux avec lesquels les enfants jouent, c'est limite ce qui intéresse le plus parce que c'est super facile à mettre en œuvre. Ils sont super contents de placer toutes les pièces.
C'est plus rigolo d'apprendre quand on joue en même temps. C'est plus facile d'apprendre en jouant, tu crois pas ?
Ouais, totalement. Et puis
toi, tu le vis comme un jeu, les maths et les sciences en général ?
Un jeu, malheureusement, je pense, je dirais non. Mais bon, parce qu'à un moment, quand on travaille tout le temps dedans, peut-être on oublie le côté jeu, on pense plus au travail qu'autre chose. Mais non, mais pour une première approche, en tout cas, c'est super important. De toute façon, au final, c'est quelque chose qui s'ancre mieux si on a passé un bon moment. Donc en jouant, nécessairement, ça t'apporte plus. Ouais.
Donc t'as eu du monde déjà aujourd'hui ou...
Alors on n'a pas eu encore beaucoup de monde, là ça, j'espère que ça va commencer à se développer un peu vu que c'est l'après-midi qui commence. Mais bon, on a déjà pu montrer aux autres labos ce qu'on faisait, on a aussi pu faire des tours des labos. Il y a quelques personnes qui commencent à venir, avec surtout leurs enfants, beaucoup de jeunes enfants, donc c'est plutôt bien. Donc on espère que ça marchera un peu plus, parce que l'an dernier il y avait quand même un peu plus de monde.
Peut-être un lieu un peu plus accessible aussi.
Ouais, l'an dernier c'est vrai que c'était en plein centre, mais je pense que c'est pas mal aussi de le délocaliser, voilà, que ce soit accessible pour tout le monde. Et peut-être du coup qu'il y ait une communication plus importante, que voilà, les quartiers qui sont un peu plus excentrés du centre-ville, bah, c'est aussi une contrainte d'y aller. Bah, là, cette fois-ci, on leur rend l'appareil. Donc moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose de l'avoir fait. Après, voir si ça s'y prêtait particulièrement bien, puisque là, on est dans une halle des sports. Avec le thème, ça rentre totalement dedans. Donc,
Est-ce que tu as un message à faire passer aux futurs universitaires de la fac de sciences?
C'est-à-dire pour les plus jeunes
Pour les plus jeunes, pour ceux qui seraient assez ambitieux, ceux qui ne le seraient pas forcément.
Bah, faut essayer de trouver ce qui nous plaît le plus. C'est pas facile déjà, mais bah voilà, une fois qu'on a trouvé, qu'on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie, voilà, se faire confiance et puis s'écouter. Être assez curieux pour découvrir des choses et puis bah, ce qui nous permettra d'avoir voilà, le parcours si possible. On dit toujours par exemple essayer de trouver quelque chose, un métier qui lorsqu'on le fait on n'a pas l'impression de travailler. Donc bah, c'est un peu cette partie-là. Il voilà, faut être curieux, il faut essayer de se donner avec ses moyens. Et...
Toi donc toi tu voudrais être enseignant après?
Ouais, en fait j'ai déjà le concours d'enseignant, mais on peut attendre avant de prendre son poste et moi c'est ce que je suis en train de faire en fait là en faisant le doctorat. Ça permet en même temps de valider ce qu'on appelle l'année de stage. Habituellement quand on a un concours directement la première année on est stagiaire et après passage des inspecteurs si tout se passe bien, ce qui est dans 99% des cas, après on est enfin titulaire et on a donc cette fois-ci notre classe et on est voilà, dans l'éducation nationale pour les prochaines années quoi.
Bah, je te remercie, merci d'avoir répondu à mes questions.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter s'il vous plaît? Qui veut commencer?
Alors je me présente, Outoumadji Josias, je suis étudiant en L3 SVT à Amiens, à l'UFR des sciences.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Paul Arcangeli et je suis à l'UFR des sciences.
De même pour moi, le grand Théo, étudiant en SVTU, 3ème année, licence 3, l'UFR des sciences.
La même que mes trois camarades, Ternisien Corentin, étudiant en L3 SVTU, du coup, à Amiens, l'UFR des sciences.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir faire des études de sciences, finalement? Qui veut répondre?
Bah, moi, ce qui m'a poussé, c'est que, du coup, j'étais baigné directement dans l'univers des sciences. C'est mon oncle qui m'a initié à la science. Et ensuite, j'ai toujours eu ce côté curieux de vouloir transmettre mes connaissances scientifiques. Donc, c'est ce qui m'a poussé après à faire des études de sciences.
Là, vous auriez pu, donc on parle de sciences, hein, vous auriez pu faire des mathématiques, vous auriez pu faire de la physique. Qu'est-ce qui vous a amené en SVT? Quels sont vos objectifs finalement?
Bah, du coup, moi, j'étais pas très bon en mathématiques, donc du coup, j'ai pas voulu partir dans les maths. Mais alors, j'ai pris SVT parce que c'est vraiment une matière que je trouve incroyable et j'ai toujours été attiré par la géologie et le fonctionnement aussi de la vie, donc comment se forment les cellules, tout ça. Et je suis vraiment une personne qui aime bien les sciences en général, donc je m'intéresse quand même à côté de tout ce qui va être la physique, l'histoire des maths, tout ça. Donc je reste vraiment généraliste, mais je me suis plus concentré sur la SVT qui, pour moi, est plus de débouché de domaine intéressant.
Concrètement, en L3 de SVT, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va travailler finalement?
Bah, on va travailler déjà de la géologie. Donc la géologie, on va découvrir un petit peu la France, comment elle s'est formée. On va travailler aussi sur tout ce qui va être le fonctionnement d'une cellule. On va découvrir un petit peu l'environnement des microbes, donc tout ce qui va être unicellulaire, tout ça. Et on va aussi faire un petit peu de sciences de l'univers, qu'on n'a pas encore fait tout de suite d'ailleurs. Donc on va un petit peu en découvrir un peu plus sur le fonctionnement de notre univers.
Trop bien, trop intéressant. Et c'est quoi la suite après la licence quand on est en L3 de SVT finalement?
Alors ça dépend des gens, mais en général on va plus vers un master enseignement. Donc du coup c'est ce qui nous concerne, c'est ce que nous on compte faire. Et du coup ce serait plus vers du premier degré ou du second degré, donc soit primaire, soit collège-lycée. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus vers le lycée. Et sinon, il y a plein de débouchés à la licence SVT. Il y a la recherche dans la biologie, par exemple. Il y a la recherche dans l'écologie, etc., etc. En tout cas, dans le domaine de la science.
Bon, je pose une question qui n'a pas vraiment de sens, dans le sens où vous allez devenir professeur et du coup, la transmission, c'est pas tout le monde visiblement, donc tu répondras après. Donc la transmission, c'est super important pour vous. On a souvent l'image de scientifiques, et moi quand j'étais à la fac, c'était un peu pareil, qui ont du mal à aller porter la parole scientifique dans le public. Vous, quel regard vous portez sur la vulgarisation scientifique finalement ?
Moi, j'ai vraiment un regard sur la vulgarisation. Moi, je trouve que c'est hyper important d'aller transmettre les connaissances. Il suffit pas de savoir, il suffit de savoir et de transmettre. Et c'est ce que je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je me considère comme vulgarisateur scientifique parce que du coup, moi, mon but, c'est vraiment de transmettre à un maximum de personnes la science. Donc, du coup, je peux le dire, j'ai une chaîne scientifique dans laquelle vraiment j'essaye d'apporter une aide et de développer une envie, un goût à la culture scientifique. Et donc, du coup, c'est ce qui va nous permettre aussi dans le métier de professeur. Et c'est ça que je trouve ce qui est intéressant. C'est ce côté humain à vouloir transmettre et pas forcément vouloir garder tout ce qu'on retient. À l'inverse d'autres scientifiques qui, par exemple, eux préfèrent travailler dans des labos, faire avancer le monde, donc la recherche, tout ça, mais qui ont moins ce côté pédagogique, culturel, à aller amener des informations à d'autres personnes.
Ça, c'est important, c'est surtout de voir la science d'un autre point de vue, en fait. Et ce sera beaucoup plus intéressant de le recevoir de quelqu'un qui est passionné, comme par exemple Paul avec sa chaîne YouTube, plutôt que de le recevoir par chercheurs en général. Et c'est pour ça que nous, on est plutôt visé vers l'enseignement, ce qui est beaucoup plus, je trouve, chaleureux par rapport à la recherche.
Super, merci de m'avoir un petit peu présenté vos différents horizons, vos différentes perspectives. On comprend mieux un petit peu ce qui se passe dans la tête d'étudiants L3 en SVT. C'est chouette de voir aussi que vous avez envie de transmettre la science. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui finalement là sur votre stand à l'Aldesport d'Étouvie?
Pour ce qui est de la partie géologie, on a surtout des ensembles sédimentaires et magmatiques qui sont liés aux différentes étapes du Tour de France. Donc voilà, on a différentes étapes, on a des paysages qui sont vraiment, qui font partie des étapes du Tour de France. Et du coup, c'est ces ensembles géologiques qu'on présente aujourd'hui à la journée de la science.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu dans le détail et tu pourrais me présenter quelques-uns de ces ensembles que moi je puisse en apprendre un peu plus finalement?
Il n'y a pas de souci. Donc pour ce qui est de la première étape, on a par exemple le Pays Basque. Sur le Pays Basque, on peut retrouver des roches sédimentaires, donc des argiles. Et ce qui est intéressant avec ces argiles, c'est que la couleur va changer en fonction de la température. Plus elle est foncée, plus elle est chauffée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est toujours du Pays Basque, on a des fossiles de rudistes qui datent du Crétacé, donc à plus de 100 millions d'années, entre 100 et 113 millions d'années. Ensuite, ça sera plutôt vers les massifs centrales. Donc les chaînes de puits, et on trouvera surtout des roches magmatiques et aussi quelques roches sédimentaires qui sont liées à l'altération des chaînes de montagne. Et enfin, on se retrouvera aussi sur Belfort, donc en bas de Strasbourg, et ça sera des roches sédimentaires, donc dues à l'altération des chaînes de montagne. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de Belfort, c'est cette couleur rouge dû à l'altération des granites.
Tous ces différents ensembles, qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer? Qu'est-ce qu'ils vont apporter finalement à la connaissance humaine, on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le fait que dans le Pays Basque, ce soit de l'argile, que ce soit du magma finalement dans le massif central?
En fait, ça va surtout renseigner sur le paléo-environnement. Ça veut dire l'environnement qu'il y a eu auparavant. Ça va influencer sur la température, sur la bathymétrie, donc le niveau marin relatif. Ça va influencer sur les âges, sur les événements qui se sont passés, sur la tectonique, etc. etc. En fonction des roches qu'on va retrouver et en fonction des faciès sédimentaires, on saura qu'on sera sur tel faciès, sur tel environnement et sur tel type de température.
Là, de ce que tu es en train de me parler, on est bien avant, si j'ai compris, l'arrivée des hommes finalement. On est à quel moment finalement?
Oui, on est vraiment, c'est des milliers d'années, pour vous rapporter un repère, on est des milliers d'années avant Jésus-Christ. On est dans l'ordre du 100 millions, du 200 millions, du 300 millions, ce qui est certes bien plus tard après la création de la Terre, qui est de 4,5 millions d'années, milliards d'années, pardon. Donc oui, en termes de temps géologique, c'est vraiment énorme par rapport à l'ère glaciaire, par exemple, qui est de 20 000 années ou 10 000 années.
Super, merci de remettre un petit peu ces choses en contexte pour les gens qui ne le connaîtraient pas tout simplement. Qu'est-ce que vous me proposez d'autre sur ce stand finalement ?
Bah, du coup, moi, c'est plutôt, j'ai plutôt m'intéressé donc du coup à ce qu'on appelle les terres rares. Donc, je présente un petit peu les terres rares. Donc, faut savoir qu'il existe 17 terres rares. Donc, tous répertoriés au niveau du tableau périodique de Mendeleïev. Donc les terres rares, c'est vraiment des éléments essentiels dans l'informatique que nous allons utiliser. Nous allons les retrouver essentiellement dans les batteries, dans les composés, nos ordinateurs, nos téléphones. Donc du coup, on va avoir par exemple le lithium qui est très utilisé pour les batteries. Sans le lithium, on n'a pas de batterie. Donc les batteries électriques fonctionnent au lithium. On va avoir aussi le cuivre qui va être retrouvé dans nos pièces de monnaie avec un alliage qu'on va retrouver aussi dans les câbles des alimentations électriques. Le graphique qui est au bout de nos mines de crayon, pour ceux qui ne savent pas. Et ce graphique qui peut aussi subir des pressions colossales et des températures colossales. Il peut devenir du diamant. Donc voilà. Donc les terres rares, c'est vraiment en fait le mot terre rare, il faut le prendre à la pincette et à la légère. Terre rare ne signifie pas forcément que c'est rare en fait. Il faut juste expliquer qu'une terre rare, tous ces éléments, ces 17 éléments, sont en abondance dans la croûte terrestre. C'est juste qu'en fait, ils sont très 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 compliqués à extraire. Donc pour les extraire, eh ben, environnementalement, ça a un coût. Ça demande énormément d'eau. On utilise des produits chimiques. Donc pour l'environnement, c'est pas du tout bon. Et donc c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui. C'est qu'on remarque vraiment au niveau du continent asiatique, on va avoir on va extraire énormément de ces minéraux. On va en avoir aussi au Brésil, on va en avoir en Russie, puisque la Russie, c'est quand même un grand pays. Et on va aussi avoir de l'extraction au niveau de l'Afrique et aussi au niveau de l'Australie. Donc moi, c'est vraiment ce que je voulais présenter, expliquer aux gens que l'extraction de terres rares, ça a un coût sur l'environnement et que... les terres rares, sans ça, y a plein de choses qu'on ne pourrait pas. Je veux dire, vous ne pourrez pas aller sur votre téléphone. Votre téléphone est essentiellement composé de terres rares. C'est pareil pour vos batteries de voiture. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier que tout ce qui constitue la technologie aujourd'hui vient quand même de quelque part dans la nature finalement ou dans nos sols. C'est ça aussi que tu veux nous dire. Alors, il y a un dernier truc qui m'intrigue. Là, on a déjà bien discuté ensemble. Ça fait une dizaine de minutes. C'est quoi ce grand tube-là, cette grande épuisette avec la terre battue du coup de tennis et puis la balle de tennis ?
On a fait une carotte de Roland-Garros. Donc ce qu'il y a dans la carotte, c'est vraiment la composition de ce qu'il y a en dessous du terrain de tennis de Roland-Garros. Donc par exemple, vous voyez Rafael Nadal et Djokovic, et en dessous d'eux, il y a toutes ces choses. Donc la première couche, c'est ce qui va être orangé, un peu marron. Donc c'est de la brique qui est pilée en seulement 2-3 mm. En dessous, on va avoir du calcaire. Après, on va avoir une couche de mâche-fer, et après la dernière couche, ça va être des cailloux plus gros, et les trois couches du dessus au-dessus des cailloux, ça va servir en fait à empêcher l'eau de couler, de s'infiltrer en fait. Donc voilà.
Mais là on a quand tu me dis que c'est ce qui est à Roland-Garros, c'est-à-dire que c'est l'homme qui l'a constitué ce sol, ou c'est le sol naturel qui est là-bas à Roland-Garros ?
Ça c'est vraiment fait exprès, ça a un but. C'est la construction de ces successions de couches est vraiment volontaire. C'est pour éviter surtout l'incrustation de l'eau. C'est vraiment ça.
Super, et c'est marrant parce que moi j'ai fait des études d'histoire et on parle vachement de la stratigraphie, c'est-à-dire du fait que les couches sont hiérarchisées systématiquement. Est-ce que vous voyez les choses de la même chose du coup dans les SVT ?
Oui, non, mais en fait, la stratigraphie, c'est vraiment un lien. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle de la datation. On veut dater et expliquer l'histoire des roches et en même temps connaître leur âge. Donc, en datant les roches par un principe qu'on peut appeler, par exemple, le principe de superposition, on peut retrouver l'âge des couches, ce qui s'est passé, à quelle période, et savoir un petit peu vraiment les éléments. Donc, du coup, là, on a ce qu'on appelle une carotte. Les carottes, c'est les mêmes carottes qu'on peut retrouver au Groenland, ce qu'on appelle le carottage. Donc, le principe, c'est de faire un trou, d'aller forer et de venir récupérer... un morceau qui va reconstituer l'histoire, par exemple, d'une région. Donc, par exemple, ici, la carotte que notre prof a fait, ça raconte un petit peu comment est composé le terrain, comme l'a dit mes collègues.
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
C'était une interview des étudiants en maths et en SVT dans le cadre de la Fête de la Science. Mercredi prochain, c'est le retour des Bruits de Lune, l'émission de radio à la Lune des Pirates. Au programme, Imiso, une expression spontanée, une émotion incontrôlable. Au niveau des influences, de Cure, de Strokes ou encore Radiohead, tout ce qu'on aime. Également durant ce bruit de lune, Arkbag, un duo violon-batterie, Arkbag étant le diminutif de Archer Baguette, c'est un mélange de folk, rock, électro, et je vous propose de terminer notre émission avec leur morceau Duel. À lundi, même station, même heure.